Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Prendre le chemin des étoiles ou El Camino, ou des nominations la plus connue, prendre le chemin de Compostelle, voilà qui attire de plus en plus de monde. Bien sûr, il y a la recherche spirituelle pour certains, l'exploit physique pour d'autres, le besoin de renouer avec la nature, et sans doute aussi le désir de quitter un temps une vie confortable pour autre chose qui va peut-être aider à se détacher d'une société hyper matérialiste, à transcender sa vie. C'est sous une forme de carnet de voyage que nous confie Henri Reich, avec nombre de détails pratiques, mais aussi des rencontres chaleureuses dans une lente progression faite d'écueils, de belles découvertes et de belles émotions. Ce livre s'intitule « Été indien sur le chemin des étoiles ». Il est édité chez L'Harmattan et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, un jacquet donc. Henri Reich, bonjour.
Bonjour Monique.
Ben voilà, vous voilà un jacquet, c'est ça?
Oui.
Oui. Alors, écoutez, je suis allée voir quand même, je suis curieuse, je suis allée voir les chiffres. L'Association des Amis de Saint-Jacques, vous en faites partie?
Oui.
D'accord. Si j'ai bien compris, c'est à Saint-Cernin, donc à Toulouse, que cette association a ses assises?
Alors moi, je fais partie de l'Association du Chemin de Saint-Jacques à Caserne.
D'accord. Ah oui. C'est sur le chemin, effectivement.
C'est sûr. Alors,
tous les chemins mènent à Saint-Jacques.
C'est le point de départ du chemin d'un de mes amis, Robert Foch, qui préside l'association de Caserne et qui était parti en 1978 avec Francis Houbatière, l'éditeur.
Que je salue au passage, on en parlera, parce que vous savez qu'il est venu ici.
Ah oui.
Oui. Il est venu ici quand il dirigeait encore les éditions Houbatière. Ouais. Ah, excusez-moi, je vous ai interrompu.
Oui, et donc je suis devenu ami avec Robert Foch et il m'a invité à faire partie des amis de Saint-Jacques, de Caserne.
Alors, cette association des amis de Saint-Jacques, je pense qu'il rassemble tous les adhérents, dénombre à Saint-Jean-Pied-de-Port 10 444 pèlerins en l'an 2000, 45 409 en 2012. Et 300 000 pèlerins sont arrivés à Saint-Jacques en 2017, soit trois fois plus qu'il y a 10 ans. Alors c'est fascinant de voir l'impact de ce chemin et sur les populations du monde entier.
Oui, alors effectivement, la fréquentation du chemin, lorsqu'on lit les statistiques, est croissante hein, d'une année sur l'autre. Et en particulier, il y a des pics de fréquentation au moment des années saintes, lorsque la Saint-Jacques correspond à un dimanche. Je crois que c'est le 25 juillet, correspond à un dimanche. Voilà, et on rencontre des gens du monde entier.
Oui, alors bien sûr, la majorité sont des Espagnols, mais après, et d'ailleurs dans votre livre, vous mentionnez plusieurs rencontres d'étrangers venus de loin.
Oui, de très loin. J'ai rencontré des Sud-Américains, des Nord-Américains, des Australiens, des
Coréens.
Des Coréens, oui.
Oui, Japonais aussi, il me semble.
Des Japonais, oui, tout à fait.
Oui. Comment expliquez-vous cette dimension internationale?
Je pense que ça fait partie des grands de rêves que font les gens, hein, d'aventures que font les gens et qui sont assez accessibles parce qu'on peut marcher sur le chemin de Saint-Jacques. Les étrangers le font souvent entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Santiago, et ils peuvent réaliser ce rêve d'aventure à peu de frais
et sans grand risque.
Le chemin est actuellement très bien balisé, c'est une aventure européenne, un projet européen.
Oui, j'ai appris d'ailleurs que justement il y a une aide pour l'entretien de la part de l'Europe.
Oui, tout à fait, avec le balisage et puis l'entretien des chemins et l'aménagement des chemins.
D'accord. Alors, votre ouvrage, comme celui de Jean-Christophe Ruffin, d'ailleurs, qui est venu à notre micro, donc, et il disait, il est ni catho ni anti-catho, il y a un respect général des motivations de chacun, finalement.
Oui, tout à fait, en rencontre sur le chemin des gens qui sont animés par une profonde foi chrétienne ou catholique, qui participent quotidiennement aux offices qui sont organisés dans les différentes églises ou cathédrales. Et puis, il y a beaucoup de pèlerins qui font le pèlerinage, le voyage sans motivation mystique ou religieuse.
Oui. Et alors, la question que je me suis posée, à ce moment-là, pourquoi ils ne font pas d'autres chemins? Parce que je pense à quelqu'un comme celui qui... Pas Vanier, non. Vanier va dans le Grand Nord. Mais bon, enfin, bref. Il y a d'autres chemins en Provence, par exemple. Oui. Ça ne vous a pas tenté?
Stevenson, oui, il y a le chemin de Stevenson.
Oui, Stevenson est là avec son âne.
Oui, tout à fait, dont j'ai lu l'histoire il n'y a pas très longtemps. Mais les mêmes qui font le chemin font aussi le chemin de Stevenson. J'en ai connu qui ont fait le chemin plusieurs fois de différents endroits. Vous savez qu'il y a le on a en parlé et Jean-Christophe Ruffin a fait le Camino del Norte et il y a le Camino français qui est le plus parcouru, le plus célèbre.
C'est-à-dire le chemin français.
Oui.
D'accord.
Le chemin français qui part de la frontière espagnole ou de Saint-Jean-Pied-de-Port au pied des Pyrénées jusqu'à Compostelle.
D'accord.
Et puis il y a le chemin de Vézelay en France, il y a le Camino de la Plata d'Andalousie.
Le chemin de Vézelay qui passe par Conques, on parlait de l'antenne de Conques.
Il y a aussi le Camino portugais, il y a le Primitivo, donc il y a beaucoup d'endroits. Il y a des gens qui font plusieurs chemins, plusieurs
d'accord,
fois le chemin.
D'accord. Donc, vous n'en avez pas endroits. Terminé, Henri Rage, je sens ça. Mais vous, quelles étaient vos motivations, en fait?
Alors, comme je le dis dans le récit, la question m'a été posée plusieurs fois par différentes personnes et je n'ai jamais trouvé les mêmes mots pour répondre à cette question.
Vous avez le droit à avoir des réponses multiples.
Alors, je suis parti à une période un peu particulière de ma vie, c'est le début de ma retraite. J'ai eu une vie de médecin des hôpitaux, de praticien hospitalier, comme on dit, très chargée, notamment à la fin, mais tout au long, et avec des moments de grande fatigue, d'épuisement même. Et certains de mes amis ont malheureusement perdu la vie en chemin, et donc je m'étais dit que si je parvenais à l'âge de la retraite et que ma santé me le permettait, je ferais le chemin de Saint-Jacques.
Vous aviez envie de tourner une page et de prendre un nouveau départ,
en quelque sorte. C'est ça.
Oui.
D'abandonner les contraintes du quotidien, de me retrouver simple marcheur simple marcheur, abandonner les soucis du quotidien. Et bon, j'avais plus de charge familiale, mon épouse avait accepté que je m'en aille pendant quelques temps, et donc ça a été pour moi un bonheur de partir. Alors c'est une aventure, même si on l'a préparée, même si on en a beaucoup entendu parler par ses amis. On a parlé de Francis Oubatière et de Robert Foch qui m'avaient précédé en 1978.
Oui, voilà, et qui vous en ont parlé.
Qui m'en ont parlé. Francis Oubatière m'avait offert ce livre, Prier pour nous à Compostelle.
Oui.
Il m'en avait offert d'autres, notamment sur les vins et les vignobles qu'on rencontre sur le chemin de Saint-Jacques. Et donc, j'étais motivé, mais on est quand même un petit peu... Quand on rentre sur le chemin, on a beaucoup d'ignorance et beaucoup de choses à découvrir. Je ne savais même pas comment se présentait le carnet du pèlerin, le crédential, comment il fallait le faire tamponner.
Vous étiez un novice.
J'étais un novice et ça me plaisait beaucoup.
Oui, parce que j'ai l'impression aussi, à plusieurs reprises vous en parlez, ce sentiment dans le fond de liberté.
Oui.
On laisse un peu passer les oripeaux, ça serait, enfin oui, c'est médiéval ça. Tout d'un coup, vous prenez le minimum. finalement. Oui. Il y a cette liberté et puis une forme de solitude que vous allez combler au fur et à mesure du chemin, mais quand même cette liberté.
Oui, oui, oui. La liberté. Alors bon, la liberté, est-ce que sommes-nous libres? C'est une vraie question.
Là, vous êtes obligé de suivre un chemin.
Voilà, c'est ce que je dis. Est-ce qu'on peut dire?
Mais enfin, on vous téléphone pas tout le temps. Non, ça, vous n'avez pas réglé les problèmes quotidiens.
On peut communiquer quand on en a envie.
Oui.
Et il est important de communiquer sur le chemin. Le chemin. Lorsqu'on s'en va sur sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais comme dans toute ce style d'aventure, on a parlé des chemins de Stevenson, il faut le préparer physiquement, mais il faut aussi le préparer moralement. Il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui va devoir rencontrer des gens et pouvoir rentrer en communication avec eux.
Dans les motivations, j'en suis encore là, moi, Jean-Christophe Ruffin dit la soif d'aventure. Compostelle, c'est l'aventure en bas de chez soi. Il y a un peu de ça
oui,
aussi,
c'est
non
ça, c'est ça, oui. On peut partir sur le chemin de Saint-Jacques du jour au lendemain. Enfin,
oui.
Il suffit. Pour peu comme je le fais, qu'on fasse de la randonnée régulièrement, j'adhère à un club de randonnée à Toulouse, et pour peu qu'on ait ces bagages, on peut partir du jour au lendemain. Oui, c'est un
oui,
pas de
et
chez
puis
soi.
Vous n'avez plus les mêmes repères.
Non, oui, oui, tout
voilà,
à fait.
C'est ça
tout
l'aventure.
Tout à fait. Ouais.
Alors, est-ce que vous. J'ai l'impression que, comme chez beaucoup d'autres, il y a beaucoup de motivation chez vous et autour de vous. Vous en discutiez entre Jacquet de ces motivations?
Oui, oui. Alors, avec nos ceux qui m'ont accompagné ou que j'ai accompagné tout au long du chemin, on est arrivé à parler de nos motivations, mais c'était pas le sujet essentiel de nos discussions.
Oui.
Par contre, au cours du chemin, j'ai rencontré des gens dont j'ai soupçonné ou identifié clairement la motivation. Il y avait notamment une Canadienne qui était partie de Burgos et qui marchait pour recueillir des fonds pour sa sœur canadienne qui était atteinte d'un cancer, de l'ovaire, peu importe, et qui n'avait pas les moyens de se payer les soins.
Oui,
et
donc, comme elle avait... en Amérique du Nord, les
oui,
aides ne
nous
sont
sommes,
pas...
Les Français ne sont pas toujours conscients
non,
du bonheur qu'ils ont à oui, être soignés correctement.
Oui, oui. Oui, voilà, il y en a qui avaient des raisons certainement
celle-ci.
Familiales, intimes.
Voilà, ensuite j'ai rencontré deux dames qui n'ont pas exprimé clairement leur motivation, mais deux dames qui avaient perdu leur enfant et qui peut-être s'étaient aventurées sur le chemin. Pour se guérir du malheur qui les avait atteints ou pour espérer les rejoindre
oui, espérer aussi une aide morale justement de la part du fait de leur foi, oui. Et dites-moi, cette idée, vous l'avez longuement mûrie?
Je pense assez longuement. Alors j'ai entendu parler du chemin de Saint-Jacques depuis longtemps. On a parlé de Francis
de vos
Sébastien,
amis, oui.
Mais j'ai des amis qui, dans mon environnement professionnel, ont fait le chemin en famille, avec des amis, en plusieurs étapes. Donc, régulièrement, au retour de vacances, ils me racontaient leurs aventures. Ils l'ont fait donc en plusieurs parties. Alors bon, moi j'ai décidé de partir seul et de le faire en une seule fois. Et bon, c'est très différent puisque que de partir en entre amis, c'est une ouverture au monde. C'est-à-dire que quand on part avec des amis, on est forcément
on reste en lieu clos.
Voilà.
Oui.
Tandis que là, on est obligé de composer et de rencontrer, de discuter avec les autres Jacquets.
Et oui. Alors, et dans la préparation, vous avez dit, bon, il faut réactiver la motivation, finalement, peut-être. Quand même, voir un peu tous les aspects, pas que matériels, finalement.
Oui. Oui, alors la motivation était forte psychologiquement, j'étais prêt. Après mon départ en retraite, une des premières choses que j'ai fait, j'ai adhéré donc à ce club de randonnée. Et je connaissais bien ma région, mais je connaissais les villes, je connaissais les routes, les autoroutes, mais je connaissais mal la nature. Et je me suis dit que ce serait bien de découvrir la nature au travers de marches avec des randonneurs. Et donc, régulièrement, le jeudi, j'allais marcher dans les Corbières, dans les environs toulousains, dans le Tarn, dans l'Aveyron, dans les Pyrénées.
Préparation.
Et j'ai fait aussi des séjours randonnées sur plusieurs jours pour tester un peu si j'étais capable de faire, de la marche pendant plusieurs jours. Et je crois que cette préparation est importante. Enfin,
bien sûr,
on ne peut pas se lancer sur le chemin, surtout à l'âge que j'avais, sans un minimum de préparation physique.
Bon, mais c'était très sage. On va faire une brève pause musicale. Et évidemment, nous restons sur le chemin de Compostelle. Alors, je ne savais pas, mais j'ai fait des recherches. Il y a le chant des pèlerins de Compostelle. Et c'est un groupe qui s'appelle Ultra IA.
Oui.
Voilà.
Oui.
Alors, nous l'écoutons.
Jour, la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia, Esso Seia, Deus Adiomanos. Chemin de terre et chemin de foi, trois millénaires de l'Europe. La voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les jacquets. Ultreia, Ultreia, Esso Seia, Deus Adiomanos. Et tout là-bas, au bout du continent, Messire Jacques nous attend, depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère. Ultreia, Ultreia, Esso Seia, Deus Adiomanos. Esso Seia, Deus Adiomanos.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Henri Reich qui est venu nous parler du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors évidemment, c'est peut-être encore la saison, parce que Henri Reich, vous avez écrit ce livre « Été indien sur le chemin des étoiles », Compostelle en automne. Si j'ai bien compris, les saisons idéales, c'est l'automne et le printemps.
Oui, parce que l'été, il fait très chaud, notamment sur la Meseta, ce plateau entre Burgos et León. Et puis il y a beaucoup de pèlerins qui profitent de leurs vacances pour partir. Donc quand on a le temps de faire et la possibilité, il vaut mieux partir au printemps ou en automne.
D'accord. Et l'hiver, il peut neiger, il y a beaucoup de lieux qui sont fermés, c'est
oui,
d'après ce que j'ai compris.
Il y a des gens qui le font en hiver, mais c'est dangereux.
Oui,
c'est dangereux.
On peut se retrouver
sous la neige.
Oui. Alors, la préparation, ben, vous nous avez parlé de la motivation, évidemment, et matériel. Alors là, évidemment, c'est quand même très minutieux, parce que autant c'est facile d'entasser des objets dans une valise, d'entasser de quoi pallier tout ce qui peut arriver, mais un sac à dos, on se le porte.
Oui. Oui.
Alors, quel poids maximum vous aviez choisi ?
Alors moi, je m'étais limité à 10 kilos. Alors lorsque j'ai évoqué devant mes enfants l'idée de faire le chemin de Saint-Jacques, eux qui avaient beaucoup fait de marche, mon fils avait fait le tour des Annapurna, ma fille avait beaucoup marché en Afrique... Ils m'ont offert, lors d'un Noël, un sac. Et ce sac, ils ont voulu en limiter le volume, à 30 litres. Alors, les randonneurs savent que les sacs ont un certain nombre de litres. Ils l'ont voulu léger. Et donc, j'étais limité par le volume de mon sac.
D'accord, voilà. D'accord. Donc, un choix drastique et motivé, évidemment. Les chaussures sont peut-être le point le plus important. Et alors, après, il y a le départ. Et je me suis dit, mais dans le fond, oui, c'est vrai, on est toujours solitaire quand on part.
Oui, oui. Alors là, sauf si on part avec des amis, mais là, dans le cas particulier, j'avais pris la décision de partir seul. Oui,
oui, oui, oui. Et vous êtes parti donc de quel lieu exactement ?
Je suis parti de Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors lorsque je me suis rendu à la basilique Saint-Sernin pour chercher
votre carnet,
mon carnet du pèlerin. Devant mes hésitations sur le point de départ, la dame qui m'a reçu m'a présenté un certain nombre de guides avec des points de départ du Puy-en-Velay ou de Saint-Jean-Pied-de-Port ou de Vézelay, d'Arles. Et je lui ai dit, je voudrais faire le chemin en 30 jours. Et elle m'a dit, mais partez de Saint-Jean-Pied-de-Port, vous pourrez théoriquement le faire en un mois. Et j'ai calculé rapidement que les 800 kilomètres, enfin 700 et quelques, mais on a fait plus de 800 kilomètres parce qu'on ne marchait pas, enfin on a marché, on a fait des allers-retours à certains endroits. 800, ça faisait 25 kilomètres par jour, donc avec 10 kilos sur le dos. Et donc, j'ai pris la mesure à ce moment-là de l'effort qui
De l'effort,
qui
oui, à oui, faire. Oui, oui, oui. Alors, j'aimerais, Henri Reich, que vous nous parliez du départ, le départ de Roncevalles. Alors, j'ai pas l'accent, mais c'est Roncevaux.
C'est Roncevaux.
Bon.
Oui.
Alors, donc, vous êtes déjà parti. Vous êtes parti de Saint-Jean-Pied-de-Port. Roncevaux, ouais. Ça se trouve à combien de...
Roncevaux, ça se trouve exactement à 27 kilomètres de Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui. Mais pour y accéder, il faut passer sur le col de Bentarte, qui est à 1400 mètres d'altitude.
Et là, vous retombez.
Et puis, il faut redescendre de 700 mètres.
Et là, vous êtes sur le versant espagnol.
Tout à fait.
Alors, j'aimerais bien que vous nous lisiez un passage.
Oui. Le départ de Roncesvalles s'effectua dans la pénombre, sous le couvert humide de forêts de hêtres. Nous marchions vite, dans une nature luxuriante, en suivant les flèches jaunes et les panneaux décorés de coquilles Saint-Jacques. Au fur et à mesure de la dissipation de l'aube, des silhouettes apparurent devant nous, dans l'axe du sentier, avançant en silence. Abrités sous leurs ponchos, dont les couleurs vives narguaient la grisaille ambiante alimentée par une bruine légère. À Bourguette, nous empruntâmes la rue principale et découvrîmes, peintes sur la chaussée, plusieurs flèches jaunes courbes qui semblaient indiquer un changement de direction vers la droite. Des pèlerins n'en avaient pas tenu compte et poursuivaient leur marche dans l'axe de la rue. Derrière nous, quelqu'un les héla pour leur signifier de rejoindre le bon itinéraire. Je commençais à comprendre qu'en effet, il faut être étourdi ou ignorant de la signalétique. Les coquilles sur le sol ou sur les bornes jacquaires, coquilles stylisées jaunes sur fond bleu, ou les flèches jaunes, yellow arrows, disent nos amis anglo-saxons, pour s'égarer sur le chemin. À la fin du camino, ce repérage finit par devenir une seconde nature, si bien que j'ai découvert des flèches jaunes dans Paris, ainsi qu'à Toulouse, et je défie quiconque qui n'a pas fait le chemin de les déceler.
Peut-être que vous les trouverez au pôle Nord, hein, de ces jours. Alors oui, c'est, comme vous le dites, c'est un chemin extrêmement balisé, donc qui est... il suffit de regarder, d'être attentif. Mais on dit souvent, c'est pas le plus important, le chemin, l'arrivée, c'est le chemin, finalement.
Oui, oui. Oui, je l'écris quelque part, qu'importe qu'on soit parti d'un château ou d'une chaumière, qu'importe où on arrive, c'est la façon dont on marche, dont on fait le chemin qui est importante. Et il est vrai que ce chemin offre des possibilités de rencontres, non seulement avec les lieux qui sont les paysages qui sont magnifiques, notamment dans la traversée des Pyrénées, mais aussi en Galice, mais un peu partout, hein, dans la Rioja ou dans le Bierzo, il y a des paysages magnifiques, et puis il y a des monuments exceptionnels. Bon, il y a les cathédrales.
Ce que vous venez de lire, on visualise parfaitement dans la brume de la montagne des silhouettes, un silence, les gens avancent. C'est assez impressionnant, finalement.
Oui, 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 ça nous est arrivé à plusieurs fois, bon, parce que le Jacquet aime parler, mais il lui arrive aussi d'être silencieux et d'apprécier les paysages qu'il traverse. Et il y a eu un autre passage après le Sebreiro, où pendant des kilomètres, nous avons marché dans la brume, dans une atmosphère ouatée, de temps en temps percée par un soleil
faible,
évanescent. Ce sont des moments assez exceptionnels, un peu. C'est difficile à exprimer cette ambiance.
Oui, sans doute. On imagine. En tout cas, vous nous le faites bien imaginer. Est-ce que on a le temps de méditer? Alors, encore une fois, excusez-moi, mais je pense que Jean-Christophe Ruffin lui disait, on est incapable d'avoir des pensées suivies, mais il y a des choses qui se passent en nous. Est-ce que vraiment on n'a pas de pensées suivies? Ça dépend des personnes.
Oui, je pense que ça dépend des personnes. Enfin, moi, il m'est arrivé. Il est des endroits du parcours où on a pratiquement aucune distraction sur le chemin. Le chemin n'offre aucune distraction, notamment sur la meseta.
Ah oui, on en parlera, parce que là, c'est la traversée du désert, si je peux dire.
Un peu.
Oui.
Et donc. Là, on n'a même pas à réfléchir sur l'itinéraire. On a identifié sur la carte que c'était tout droit, qu'il suffisait d'aller tout droit et de suivre éventuellement les personnes qui vous précédaient. Donc, dans ces moments-là, on peut être amené à réfléchir. Moi, ça m'est arrivé. J'ai donc fait la connaissance et nous sommes devenus amis avec un certain nombre de marcheurs, de pèlerins, mais il nous arrivait assez souvent de ne pas marcher ensemble et de marcher seul.
Oui,
chacun marche un peu à son rythme.
Oui.
Et là, dans ces moments-là, j'ai eu des pensées, enfin j'ai des pensées suivies, peut-être un peu délirantes que j'exprime un peu.
Alors, justement, parce qu'on apprend que, évidemment, comme dans tout déplacement important, il y a des morts, il y a des personnes qui se trouvent mal, qui meurent même. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Et du coup, ça vous donne une réflexion sur la mort, hein,
oui,
sur vos vœux, vos souhaits après votre mort. Il y a également... vous réfléchissez également sur la paix, sur l'union des peuples, sur l'Europe. Il y a plusieurs temps de réflexion.
Oui, oui. L'Europe, pour moi, est quelque chose d'important. Enfin, bon, c'est un sujet d'actualité maintenant. Bon, je ne sais pas si les jeunes ont compris que l'Europe, que nous devions la paix à l'Europe. Nous sommes probablement, la première génération qui n'avons pas connu la guerre.
Absolument.
Et nos enfants ne l'ont pas connue non plus. Donc, Puis il y a la libre circulation des personnes et des biens, il y a Erasmus pour les jeunes, il y a plein de projets européens pour moi c'est un sujet que j'attrape quand il est
et encore plus réactivé là où vous avez rencontré quand même d'Européens aussi.
Oui. Alors nos amis anglais savaient que mon ami Chris anglais savait.
Alors
qu'il
il
allait
est pro
devoir...
ou pro Brexit?
Non. Il a dit que il a deux filles jumelles, ont pleuré le lendemain, quand ils ont connu le résultat.
Oui,
alors on plaisante avec lui, parce qu'il c'est un vrai Anglais qui est souvent décalé dans ses propos, enfin, qui a cet humour si caractéristique et difficile à exprimer des anglo-saxons, des Anglais. Et on lui disait, tu devras avoir un visa quand tu viens. Alors on s'est revus plusieurs fois, on s'est revus quatre fois, et une fois donc on a refait une partie du chemin à partir du Puy-en-Velay avec nos épouses. On s'est revus en Allemagne, en Angleterre, on va se revoir prochainement en France. Donc,
malheureusement, ceux qui sont contre l'Europe, ce ne sont pas ceux qui bougent.
Et non.
Qui n'ont pas l'occasion de rencontrer. Oui. En tout cas, donc, réflexion, oui, là-dessus. Et comme vous dites, c'est un sujet qui compte, d'autant qu'on est inquiet, puisque il y a des pays européens qui sont en train de vouloir mettre l'Europe à mal. Alors, toujours sur le chemin. Les rencontres, alors ce qui me fait rire, c'est qu'il y a la marche et la vitesse de la marche, c'est important.
Oui.
Parce que bon, là vous rencontrez des gens, mais que vous perdez ensuite de vue, soit ils vont trop vite, soit trop lentement.
Oui, tout à fait. Donc le pèlerin part en général avec un guide, un guide manuel, enfin un topo guide,
oui.
Qui définit les étapes, les monuments à visiter, les choses à voir, etc. Et donc les étapes sont généralement de 20 à 30 kilomètres selon les guides. Mon ami anglais avait un guide qui définissait le chemin de Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques en 31 ou 32 étapes, alors que le mien le faisait en 30. Enfin, bon.
Oui.
Et donc les gens marchent un peu, la plupart des gens marchent à peu près à la même vitesse, s'ils peuvent. Le problème, c'est qu'au cours du chemin peuvent arriver des incidents. Alors, parmi les incidents les plus fréquents, il y a les ampoules. Les ampoules, lorsqu'elles deviennent conséquentes,
c'est épouvantable.
Ça peut obliger à interrompre momentanément, pas à renoncer, mais à interrompre le chemin. J'ai un ami. Patrick Lassub, qui a fait le chemin, qui a écrit d'ailleurs son récit, et qui a été obligé de s'arrêter à un moment pour. Et donc, il a perdu les gens avec qui il a perdu le contact.
Alors, vous parlez de ça, vous parlez des tendinites. Évidemment, il y a les ennuis physiques, mais que vous avez su surmonter. Il faudra peut-être que vous en parliez dans un autre ouvrage. Comment surmonter les difficultés? On fait une seconde pause musicale, oui. Henri Reich. Alors là, j'ai fait une découverte. Anne Sylvestre, que j'aime beaucoup, elle ne fait pas que des fabulettes pour les enfants, qui sont de belles fabulettes d'ailleurs, mais elle a écrit de très belles chansons pour les adultes. Et elle a écrit une chanson pour le chemin de Compostelle qu'elle n'a jamais fait, justement. On l'écoute.
Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin? La source vive, celle qui te motive, a-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main? Pour que ta quête un jour te projette tout seul, sac au dos, en humble pèlerin. Pour que ton rêve aujourd'hui soulève autant de poussière en mon pauvre jardin. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. je sache que rien ne m'attache et que je pourrai suivre aussi la même voie. C'est dans ma tête que toujours secrète se trace une ligne où je m'en vais parfois. La marche lente s'étire et serpente, je tangue et chemine le long des coteaux. Mais mon voyage n'est fait que de mirages. Ô toi, pèlerin, prête-moi ton manteau. La route est longue jusqu'à Compostelle. Pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages. Le pèlerinage me fait toujours peur. D'usage comme au Moyen-Âge d'envoyer quelqu'un à sa place marcher. Dans tes prières, sois mon mandataire, de mon catéchisme j'ai tout oublié. Les paysages seront les bagages que tu garderas au fond de tes yeux clairs. Sous quelques toiles, à la belle étoile, tu feras ton lit dans la douceur de l'air. La route est longue jusqu'à Compostelle. Pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages. Le pèlerinage me fait toujours peur. Sur cette route, tu feras sans doute de belles rencontres, on te tendra la main. Et dans les gîtes où parfois on s'abrite, tu ne seras qu'un parmi d'autres humains. D'un pas tranquille, villages et villes défileront comme grains de chapelet. Si tu trébuches, ne crains pas les bûches, cette marche est bien celle que tu voulais. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Alors Henri Reich, est-ce que comme Anne Sylvestre on nous en parle, ça m'amène une question. Est-ce que vous avez pensé aux nomades arrêtés dont parle Anne Sylvestre, ceux qui ne feront pas la route et qui pourraient le faire ou voudraient le faire?
Oui, alors bon, lorsque j'ai commencé à réfléchir au récit, je me suis dit, j'ai voulu le faire pour mes amis du chemin, qu'ils puissent en conserver une trace, mais je me suis dit, il faut aussi donner envie aux gens donner du plaisir aux gens qui ne pourront pas le faire.
Leur décrire. Ils le font à travers vous, votre témoignage. Et puis, il y a la beauté des lieux. Alors, j'aimerais bien que vous nous lisiez un extrait, justement, un passage, où vous montrez combien, à certains moments, tout le chemin n'amène pas. On parlera de ce passage terrible qui est aride et long. Mais là, vous passez un très beau lieu, je crois. Hein.
Tout à fait, oui. On a rencontré des paysages magnifiques. Alors, l'étape Triacastella-Barbadello nous offrit, avec celle du franchissement des Pyrénées, l'un des plus beaux spectacles que la nature recèle sur le chemin. Pour que le spectacle soit beau, il ne suffit pas qu'il soit habité de merveilles. Il faut aussi qu'il soit bien éclairé par une lumière qui souligne ses reliefs, que le temps soit clément et que le spectateur soit dans les meilleures dispositions pour accueillir dans son regard la beauté qui en émane. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde.
C'était Oscar Wilde qui disait ça, oui.
J'ai conservé de cette étape le souvenir radieux de la campagne galicienne. Dès le début, il nous avait fallu gravir une côte de 350 mètres de dénivelé que dans d'autres lieux, nous aurions trouvé pénible. Ce fut un enchantement de gravir la pente qui s'élevait dans une forêt de châtaigniers centenaires, aux troncs parfois énormes, aux formes fantomatiques, sur un large chemin déjà tapissé des premières feuilles mortes et bordé de vieux murets aux pierres couvertes de mousse. Il faisait beau, il y avait un vent d'est, mais avec l'effort et l'élévation de la température, je quittais ma veste, puis mon pull polaire pour me retrouver en t-shirt et, ainsi libéré de ces contraintes vestimentaires, j'eus l'agréable sensation de me sentir en communion avec la nature. Le chemin ne cessait, à chaque détour, de nous réserver des surprises. Parfois couvert de pavés, enjambant des ruisseaux chantants sur des ponts romains, côtoyant des troupeaux de vaches broutant paisiblement l'herbe grasse de Galice, ouvrant nos yeux sur ces constructions si caractéristiques que sont les éréos, silos destinés à faire sécher et conserver le maïs et autres denrées de la terre. Ce sont ces sortes de petites maisons de formes allongées montées sur des pieds en pierre ou en bois surmontées d'un socle dont le rebord doit interdire l'accès aux rongeurs et autres animaux désireux de se divertir dans ces greniers. Ils sont bâtis dans différents matériaux, en pierre et en bois, en pierre et en briques, mais toujours les murs sont ajourés pour permettre une bonne ventilation. Leurs toits bipentes sont régulièrement couverts de tuiles romanes avec de larges débords et parfois aux extrémités de l'arête des figures coniques ou des croix.
Alors, vous avez bien fait de vous extasier sur ce paysage parce que ensuite, quand vous étiez dans la Meseta, c'était un tout autre paysage. J'ai l'impression que vous avez souffert là.
Oui, alors la Meseta est une région, la Meseta ça veut dire le plateau, je pense en espagnol, qui se situe entre 800 et 900 mètres d'altitude, entre Burgos et León. Mmh. Et c'est une zone de culture céréalière, qui en été ressemble un peu à un désert par la coloration des blés, et puis en hiver aussi, ou en automne, lorsque les chaumes sont, lorsqu'il ne reste que les chaumes.
C'est long, hein.
C'est long. Heureusement, il y a des merveilles le long de cette Meseta. Il y a l'église de Fromista qui est une merveille romane. Il y a le canal de Castille, et puis il y a de jolis villages qui sont des étapes très agréables, mais le reste du temps, il faut marcher.
Et alors justement, l'accueil des autochtones, et comment est-il en règle générale?
Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié l'accueil des autochtones. J'ai cité plusieurs exemples assez caractéristiques de cette qualité de l'accueil, notamment à l'avant-dernière étape, juste avant Santiago, dans un village qui s'appelle Opedruzzo. Nous avions marché 35 km sous la pluie battante. Et nous sommes arrivés dans une auberge où la dame nous a pris nos chaussures mouillées, les a fait sécher. Elle nous a pris nos vêtements pour les laver. Enfin bon. Et son mari est arrivé avec du fromage, du jambon, du vin. Oui. Nous a proposé de faire une grillée de châtaignes.
Alors enfin, si je comprends bien. Il y a cette fraternité déjà avec les gens du pays. Mmh. Et puis évidemment, vous allez nous parler de cette fraternité que vous avez rencontrée tout au long du chemin, parce que vous partagez souvent la table avec d'autres.
Oui, oui. Alors bon,
c'était important aussi.
Oui, j'ai un ami qui m'a dit, quand ma femme a eu fini la lecture, elle m'a dit, mais Henri, il doit adorer manger parce qu'il en parle tous les chapitres.
Vous aviez souvent faim, j'ai remarqué.
Oui.
Alors, ça creuse la marche.
C'est vrai que on consomme beaucoup d'énergie. Je dis à un moment qu'on consomme des centaines, des milliers de calories. On est obligé de manger. Et j'ai même perdu du poids. Alors, si des gens...
Malgré les bonnes tablées et le bon vin. Oui. Et en fait, vous avez rencontré beaucoup de personnes. Et vous avez la chance de parler anglais, pas trop espagnol, si j'ai bien compris.
Non. Enfin, bon, la langue du chemin, c'est essentiellement l'anglais.
Oui, ça ne m'étonne pas.
Il y a beaucoup, c'est vrai qu'à la fin, il y a beaucoup d'espagnol, mais les premières étapes, il y avait relativement peu d'espagnol et beaucoup d'étrangers. Et c'est là que se créent les amitiés. À la fin, il y a, il y a, il y c'est plus difficile d'établir des contacts et des relations suivies.
Dans le fond, El Camino, c'est un lieu de communication. Mais on dit aussi, parce que, en fait, tout le monde a son portable.
Oui, beaucoup.
Donc, même avec des pays comme la Corée, comme le Mexique ou le Brésil, je ne sais plus, tout est en communication. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait un tel foisonnement, justement, international.
Oui, alors, autrefois, lorsqu'on voyageait, on envoyait des cartes postales.
Oui.
Mon ami Loubatière en envoyait. Et son ami Robert Foch m'a dit « Tu m'enverras une carte postale quand tu arriveras à Léon ». J'ai dit « Si j'y arrive ». Et j'ai envoyé la carte postale. Mais le Jacquet moderne n'envoie plus de carte postale. Il poste des photos ou des vidéos ou des textes sur les réseaux sociaux.
Oui. Alors, évidemment, on va parler de l'arrivée. Alors, je me suis dit que quand on arrive, ça doit être... Alors, il doit y avoir beaucoup d'émotions quand on arrive au bout.
Oui. Nous étions d'abord très fiers d'avoir accompli cet exploit, parce que c'était pas... C'est une épreuve, le chemin de Saint-Jacques. Et quand on, au bout de 30 jours de marche et parfois de souffrance, on est très, très heureux d'arriver à Saint-Jacques. Et donc, c'était très émouvant pour nous de nous retrouver dans cette ville. Et nous étions assez fiers et nous avons été accueillis par des bandas d'étudiants qui jouaient de la musique, et cette atmosphère joyeuse nous a plu et correspondait un peu à l'allégresse qui animait notre esprit.
Voilà. Oui, parce que dans le fond, il y a un athée qui disait « on sait qu'il va se passer des choses ».
Oui.
Est-ce qu'il se passe des choses ?
Oui, il s'est passé quelque chose à la basilique, à la cathédrale de Saint-Jacques. Nous avons assisté à la messe le soir. On nous avait dit que parfois il y avait le butefumairo, je ne sais pas si c'est le terme, si je le dis correctement. C'est cette espèce d'encensoir. Qui est propulsé par 8 personnes qui tirent dessus et qui se balance dans la travée centrale et dont on dit qu'il était destiné à dispenser des odeurs d'encens pour masquer les odeurs des jaquets qui avaient oublié de se laver à Lavacola, dans le ruisseau de Lavacola avant d'arriver. Et donc, il y a eu une messe avec des chants, une sœur qui chantait avec une voix d'une clarté magnifique et qui était accompagnée par un organiste. Et ça a été... Nous étions rassemblés... Il y avait beaucoup de monde, et puis il y avait tous mes amis arrivés que je connaissais, environ une cinquantaine de personnes que je connaissais. Et ça a été un moment d'émotion et de communion dans le silence, en écoutant ces chants et cette voix magnifique, avec un prêtre qui a aussi, bon, dit la messe, mais bien sûr, mais qui a aussi expliqué d'où nous venions, combien nous étions arrivés dans la journée. Et
vous englobait dans toute cette communauté de Jacquet.
Tout à fait.
Est-ce que ça a changé quelque chose de votre perception de la pauvreté de certaines personnes? Je pense aux sans-domicile fixe. Est-ce que le fait d'être comme ça... Bien sûr, vous aviez des sécurités. Bon, mais est-ce que vous avez touché du doigt ce que pouvaient être les gens qui sont obligés de prendre la route, qui... Bon, oui. Y compris, on peut parler d'immigrants également.
Oui. On a fait plusieurs fois, au moment et après être arrivé, la réflexion de se dire, nous marchons volontaires, avec des moyens pour d'hébergement, dans la sécurité, personne ne nous arrêtera. Nous faisons 25 km avec nos sacs, mais les migrants, eux, font parfois plus, avec parfois des enfants dans l'insécurité totale, avec parfois pourchassés, parfois. Et donc, on a bien perçu ça. Ça a été une réflexion qu'on s'est fait au moment et par la suite. Oui.
Et est-ce que vous avez le sentiment que ça a changé des choses en vous ?
Oui, bien sûr. Enfin, toute expérience forte change quelque chose en nous. Et Henri Laborie disait « Nous sommes ce que les autres nous ont donné. » Nous sommes un peu ce que les autres nous ont donné. Donc toute expérience change. Oui, je le dis à la fin. Je suis revenu plus modeste.
Alors, il reste peu de temps, mais je vais le lire pour ne pas froisser votre modestie. « Je suis revenu plus patient, plus tolérant, plus attentif et aussi plus apte à accepter la modestie de l'existence. » Savoir se détacher des choses.
Oui, tout à fait. J'ai ce sentiment-là profond.
Oui, et puis revenir après dans notre société, l'hyperconsommation. Pour terminer, je vais vous connaissez certainement cette histoire qui est arrivée à Jean-Christophe Ruffin. Il était tout seul sur le chemin, il a entendu une voix. Vous la connaissez pas ?
Non.
Il s'est dit, Dieu me parle ? Ben, pas vraiment. Pèlerin, dans 1 km, tu trouveras une auberge. Il y avait une cellule photosensible qui déclenchait cette publicité dès que quelqu'un passait. Voilà. Alors bon, c'est vrai que peut-être qu'en effet, de retrouver cette simplicité de vie, cette fraternité aussi, même si on essaie de l'entretenir chez nous, mais c'est vrai que ça fait sans doute beaucoup de bien.
Tout à fait. Alors j'avais l'énorme avantage de ne pas replonger dans la vie professionnelle, puisque je suis retraité, et donc j'ai pu profiter.
Le chemin continue.
Tout à fait.
Voilà, un grand merci, Henri Lèche.
Merci infiniment, Monique.
Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de « Été indien sur le chemin des étoiles », sous-titré Compostelle en automne, édité chez L'Harmattan, et c'est Henri Lèche qui en est l'auteur. Au revoir.
Au revoir.